Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique et très bon début de semaine. Au micro, Morgane Guiriec et Anne Albertson, à la une de notre émission en ce lundi 23 novembre 2015.
Le Mali, après le groupe Al-Mourabitoun, c'est au tour du Front de Libération du Massina de revendiquer le carnage qui a fait 22 morts vendredi à Bamako.
Un deuil national de 3 jours a été décrété en hommage aux victimes.
Attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. Une kamikaze a tué 8 personnes et a fait 7 blessés hier à Maïdougouri.
Les autorités belges maintiennent l'alerte maximale décrétée dans la foulée des attentats de Paris. 16 personnes ont été interpellées. Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports. Mais d'abord, le journal.
Du nouveau donc sur l'attaque contre Grand Hôtel de Bamako. Après le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Belmokhtar, c'est au tour du Front de Libération du Massina, groupe djihadiste du centre du Mali, de revendiquer le carnage qui a fait 22 morts vendredi dans la capitale malienne. L'organisation affirme qu'en plus des 2 assaillants tués, 3 auraient pu s'échapper. Le groupe de Mokhtar Belmokhtar a pourtant réitéré sa revendication dans un enregistrement diffusé dimanche soir par la chaîne de télévision Al Jazeera. Al-Mourabitoun assure que les assaillants étaient uniquement au nombre de 2 et laisse entendre qu'ils étaient maliens. Ils affirment avoir agi en réaction aux attaques des forces françaises Barkhane qui visent certains éléments du front et Ansardine à l'aide de l'armée malienne et le soutien de certains pays occidentaux.
Un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attaque du 20 novembre débute ce lundi au Mali. Un état d'urgence de 10 jours est entré en vigueur peu après l'irruption d'un groupe de terroristes dans l'hôtel Radisson Blue de Bamako où ils ont retenu quelques 170 clients et employés. 2 jours après l'attaque, les enquêteurs travaillaient sur plusieurs pistes et 3 suspects sont activement recherchés.
À la veille de ce deuil national, également observé en signe de solidarité au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée, le journaliste Sada Diarra, directeur de publication du bimensuel La Nouvelle Roue, a décrit l'atmosphère dans la capitale malienne dimanche et résumé la réaction des Maliens suite à l'attaque du Radisson.
Beaucoup plus calme que les autres dimanches. Hein. Et on n'a pas vu de festivités, on n'a pas vu de cortège de mariage. Et puis les gens sont quand même un peu sonnés. Il y a un peu de méfiance. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ça circule bien. Peut-être que les gens restent chez eux. C'est un peu ça.
Et la réaction en général au sein de la population après l'attaque de vendredi?
Les gens sont indignés. Ils comprennent pas du tout parce que ceux qui se proclament djihadistes, ils disent, mais nom de Dieu, on est musulmans comme eux. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Qu'est-ce qu'ils cherchent au Mali? Et puis, le Mali est une terre d'hospitalité. Nous avons dans notre culture beaucoup de dictons qui disent que celui qui se donne la peine de marcher de chez lui à chez toi vaut mieux que toi. Donc nous, on accueille les étrangers à bras ouverts. On n'a pas le droit vraiment de s'attaquer à eux gratuitement de cette façon-là et surtout de leur ôter la vie. Donc à s'attaquant à ce genre d'hôtel, on s'attaque à nos hôtes, on s'attaque à des amis du Mali. On veut peut-être compliquer la vie au gouvernement malien en le brouillant avec, ses soutiens extérieurs. C'est ce que le commun du mortel dit, hein. J'ai discuté avec certains.
Le journaliste Sada Diarra à Bamako au micro de Chérubin Dorsil.
Attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. Une kamikaze a tué 8 personnes et fait 7 blessés hier à Maïdougouri. C'est ce qu'indique l'AFP citant un responsable de l'agence de gestion des situations d'urgence et l'armée. La kamikaze, âgée d'une 20aine d'années et déguisée en réfugié, s'est glissée parmi un groupe de réfugiés arrivant dans la ville, surtout des femmes et des enfants.
En Tunisie, une organisation djihadiste a revendiqué au nom du groupe État islamique la décapitation d'un jeune berger tunisien, l'accusant d'avoir informé l'armée sur ses mouvements dans la région de Sidi Bouzid. La décapitation de cet adolescent le 13 novembre a suscité émoi et colère en Tunisie. Ces assassins avaient ordonné à un proche de la victime, Chokri, 14 ans, témoin de la scène, de ramener la tête enveloppée dans du plastique à sa famille.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé dimanche son soutien inconditionnel au front Polisario. C'est ce qu'a déclaré le chef de ce mouvement indépendantiste du Sahara occidental à l'issue d'une audience avec le chef de l'État à Alger. Cette rencontre intervient au moment où l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, est attendu au Maghreb pour tenter de relancer les négociations entre le Maroc et le Polisario. Le Sahara occidental, rappelons-le, est une ex-colonie espagnole contrôlée par le Maroc. Rabat propose une large autonomie sous sa souveraineté pour ce vaste territoire de moins d'un million d'habitants, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination.
En Guinée-Bissau, le chef de l'État a limogé le président de la Cour des comptes et le procureur général de la République, qu'il a remplacé dans la foulée sans aucune explication, a appris l'AFP de sources officielles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, au moins 10 personnes ont été blessées dimanche au cours d'une fusillade qui a éclaté à la Nouvelle-Orléans lors d'un rassemblement non autorisé dans un quartier de la ville. C'est ce qu'a indiqué la télévision locale. Selon la chaîne WGNO, qui cite la police, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées dans le quartier de Nine Ward pour tourner une vidéo quand des tirs ont éclaté à l'arrivée de la police dépêchée sur les lieux pour interdire le rassemblement.
Les opérations policières et perquisitions menées en Belgique dimanche soir ont permis d'interpeller 16 personnes. En revanche, Salah Abdeslam, suspect clé des attaques de Paris, demeure introuvable depuis 9 jours. Les autorités belges ont maintenu l'alerte maximale décrétée dans la foulée des attentats de Paris. Selon le Premier ministre Charles Michel, la région de Bruxelles sera encore à l'arrêt ce lundi en raison des menaces sérieuses et imminentes d'attentats dans la capitale. La mesure sera réévaluée ce soir, nous dit Mathieu Collinet de la rédaction du journal Le Soir.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste sur une forte mobilisation. Malheureusement, en plus, parce qu'on est lundi, les écoles, les hautes écoles, les universités seront aussi fermées, en fait, à Bruxelles.
Comment ces nouvelles mesures de sécurité affectent-elles la vie à Bruxelles?
C'était le week-end ici, donc j'imagine que les gens n'ont pas pu aller faire leurs courses, non, certains n'ont pas pu aller à la piscine, n'ont pas pu aller au cinéma, au théâtre, ce genre de choses. Mais demain, à mon avis, il y a des gens qui ne vont pas se rendre au travail, qui vont rester chez eux pour garder leurs enfants.
Donc l'alerte niveau 4 est maintenue?
C'est ça.
Et bien sûr, avec toutes les conséquences que cela peut avoir aussi sur l'économie, les activités.
Oui, c'est ça. Il y a déjà des commerçants qui se sont plaints un peu de certaines formes de désorganisation. Enfin, eux ont forcément un chiffre d'affaires fort à la baisse depuis samedi matin, quoi.
Il n'y a aucune nouvelle concernant Abdeslam?
Non, il est toujours recherché, on n'a pas la moindre idée. Il y a son frère qui lui a complètement été blanchi depuis le début de l'enquête, qui a de nouveau lancé un appel pour qu'il se rende.
Mathieu Collinet du journal Le Soir à Bruxelles.
Le ministre français des Affaires étrangères estime qu'il faut lutter implacablement contre les terroristes de l'État, du groupe État islamique, des monstres d'après lui, insistant sur le fait que l'organisation ne représente que 30 000 personnes. Laurent Fabius a déclaré qu'il serait inconcevable qu'un front de nations incluant la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et d'autres pays ne parviennent pas à les neutraliser. De Brasilia, le chef de la diplomatie française a rappelé l'importance de trouver une solution politique à cette guerre en Syrie, qui a fait 300 000 morts et des millions de réfugiés. Le calendrier de sortie de crise adopté à Vienne prévoit une réunion entre le régime du président syrien Bachar al-Assad et des membres de l'opposition d'ici au 1er janvier 2016. La formation d'un gouvernement de transition dans les 6 mois, l'adoption d'une nouvelle constitution dans les 18 mois, puis la tenue d'élections libres. Mais M. Assad a déjà remis en cause ce calendrier qui ne pourra démarrer, a-t-il dit, qu'une fois qu'on aura commencé à vaincre le terrorisme.
Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Washington hier pour un voyage au Moyen-Orient qui mettra l'accent sur la guerre civile en Syrie et les efforts multinationaux pour une transition politique à Damas, ainsi que la violence continue entre Israël et les Palestiniens. Jean-Roger Bion.
Le chef de la diplomatie américaine ira à Abu Dhabi, Tel Aviv, Jérusalem et Ramallah pour des entretiens avec les responsables, y compris le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. John Kerry se rend d'abord aux Émirats arabes unis, qui ont participé au pourparlers de Vienne sur le conflit syrien. Les Émirats arabes unis font également partie de la coalition menée par les États-Unis contre les militants du groupe État islamique en Syrie et en Irak. L'effort pour contenir et vaincre les djihadistes devrait être un point focal des entretiens de M. Kerry à Abu Dhabi. Avant de quitter la capitale américaine, le secrétaire d'État avait exprimé l'espoir qu'une conférence sur la Syrie pourra se tenir prochainement avec la participation de divers groupes de l'opposition syrienne en vue de travailler sur une transition politique à Damas. La plus récente rencontre sur la Syrie entre les États-Unis et d'autres puissances mondiales a pris fin à Vienne le 13 novembre, les participants s'engageant à essayer d'emmener le gouvernement de Bachar el-Assad et l'opposition autour d'une table d'ici janvier. Quant à l'étape israélienne de la visite, elle arrive à un moment de tension accrue entre Israël et les Palestiniens. Au moins 80 Palestiniens et 18 Israéliens ont été tués dans les troubles qui ont commencé en octobre. Avec le premier ministre Netanyahou et le président Abbas, John Kerry envisagera probablement des mesures qui pourraient mettre un frein à cette spirale de violence et ouvrir la voie à un calme permanent dans la région.
La page éco au Congo-Brazzaville, l'économie numérique apporte une valeur ajoutée sur le budget national. Les télécommunications représentent en effet 6% du PIB, ce malgré les difficultés que rencontrent les usagers de la téléphonie mobile et de l'Internet. Ngolan Goussou.
Le Congo-Brazzaville a adopté à 3750 milliards de francs CFA son budget pour 2016. Les télécommunications y occupent une bonne part. À chaque appel passé, par exemple, le gouvernement prélèvera 10 francs CFA. Les sociétés de téléphonie mobile développent globalement un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de francs CFA. Pour le directeur coordinateur des marchés haut débit au Congo, Luc Missidimbazi, le numérique constitue une vraie niche de l'économie.
C'est 6% la contribution, mais derrière, le fait d'être numérisé, certaines entreprises améliorent la contribution numérique. Vous avez des sociétés comme Total, par exemple, qui a des plateformes de services qui consomment beaucoup de mégas. Ils doivent payer 10-20 millions par mois. On va dire que c'est ce qu'on appelle des niches en opportunité. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui offrent des services ont des développeurs, ont des start-up. Et ces entreprises-là, c'est elles qui font l'économie en partie directe, parce qu'elles offrent des services qui s'achètent et créent des emplois. Au Congo, on invite, parce qu'il n'y avait rien encore quelques temps, on avait un taux de pénétration d'Internet qui était à 4%. Aujourd'hui, on est passé à quasiment 9%, ce qui fait que les gens commencent à s'habituer au numérique. On a tous des smartphones, on veut tous voir Facebook, on a tous une adresse mail. Bon, tout c'est exagéré, mais il y en a de plus en plus. Et tout ça, on a besoin de services.
Mais pourtant, les consommateurs se plaignent de la qualité du réseau téléphonique. Bénédicte, une Brazzavilloise.
Constatons que le réseau est devenu vraiment très, très, très difficile. Quand tu appelles, l'autre t'entend, mais toi, tu n'entends pas. Vraiment, les crédits vont comme ça là. Tu appelles, tu insistes. S'il y a possibilité, il faut vraiment arranger. Nous sommes en difficulté. Parfois, tu as un grand problème, tu ne peux pas régler. Parce que vraiment, le réseau là...
Même plainte pour les mordus de l'Internet. Le cas ici de Christophe.
Il arrive que, par exemple, en ce qui concerne l'Internet mobile, que nous achetions des cartes. Pour peu que vous mettez quelque temps, la connexion s'épuise. Donc, pour moi, de manière globale, si je ne vais pas exagérer dans les chiffres, je pense que je dépense environ 50 000 francs CFA pour avoir accès aux services Internet mobile. Connecté à la fibre optique, que nous sommes en pleine révolution de la 3G, mais à contrario, pour nous qui sommes consommateurs, ce n'est pas ce qui se vérifie. Vous avez toujours une connexion qui est assez lamentable, qui ne vous permet même pas d'ouvrir parfois votre boîte seulement. Et alors, imaginez s'il faut attacher une pièce jointe, cela coûte énormément, énormément de temps et souvent non d'argent.
Une chose est sûre, les télécommunications sont désormais dans la dynamique de booster l'économie congolaise. Nguela Mgoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
On enchaîne sur les sports. En foot, l'UMS Loum a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe du Cameroun de football en battant Panthère D 2-0 en finale de la 56e édition. Et Zinedine Zidane, entraîneur de la réserve du Real Madrid, assure ne pas être pressé de diriger l'équipe première du club merengue après avoir été cité comme potentiel successeur de Rafael Benitez, fragilisé par la déroute face au FC Barcelone samedi. Résultat de la 8e et dernière journée du Master de Londres disputé hier, la finale messieurs Novak Djokovic bat Roger Federer 6-3, 6-4. Voilà pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission, au micro Morgane Guériec. Première escale, le Mali. Retour sur l'attaque de vendredi contre l'hôtel Radisson de Bamako. Le bilan est lourd, puisqu'on compte 22 morts, dont 13 étrangers. Les blessés sont au nombre de 7, mais leurs vies ne sont pas en danger. Les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours, qui débute ce lundi partout au Mali. Et l'état d'urgence de 10 jours a été aussi décidé par le gouvernement. Alors que le procureur antiterrorisme a ouvert une enquête, les forces de sécurité sont à la recherche de 3 suspects. Le point avec Kassim Traoré.
Le bilan de l'attaque à l'hôtel Radisson de Bamako est de 22 morts, y compris les 2 terroristes. Il y a 6 Russes, 3 Chinois, 2 Belges, une Sénégalaise, une Américaine. La force spéciale malienne a pu sauver 130 personnes. Certains étaient revenus à l'hôtel récupérer leurs affaires.
En revenant sur les traces, j'ai vu des traces de sang et tout ça, et j'étais catastrophée par autant de méchanceté.
Je ne pars pas précipité, et la preuve, je viens chercher mes affaires tranquillement. J'ai dormi tranquillement hier soir dans un endroit sécurisé. Avec une personne pour me protéger. Qu'est-ce que je peux demander plus? Je suis vivant, c'est l'essentiel.
L'hôtel Radisson reste fermé, mais reste à la disposition des techniciens des scènes de crime, sous le contrôle d'un responsable de la police scientifique du Mali.
La scène est tellement vaste, on doit passer au peigne fin. Tout objet qu'on peut retrouver peut nous aider pour la recherche de la vérité, pour les identifications. On n'a eu que 2 terroristes. Tout ce qu'on a dit, c'est peut-être les enquêtes continuent. On ne sait pas. Parce que nous, on n'a pas fini. Vous avez vu, on est là. On peut rester 3 jours ici. Tant qu'on ne finit pas, on ne donne pas de conclusion.
Au début de la prise d'otage, la presse malienne avait fait une confusion entre un véhicule de l'ambassade des États-Unis et la voiture venue déposer les terroristes. L'ambassadeur des États-Unis au Mali donne des éclaircissements. Paul Folsby.
Je sais que les gens avouent qu'un véhicule était allé à la route à Radisson. Cet véhicule était un chauffeur qui était là pour emmener quelqu'un et emmener de l'hôtel. Ils ont fui de la voiture à cause de les terroristes et ils ont laissé la voiture là, simplement ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient tuées. Aussi, un travailleur qui vient des États-Unis. Elle s'appelle Anita Dutter. Elle était ici pour aider le peuple de Mali. Elle était mère. C'est vraiment une grande tragédie. Elle était un volontaire de la Cour de la paix du Sénégal.
Le président Macky Sall a effectué une visite express à Bamako. Il s'est rendu sur les lieux du drame avant de se recueillir sur la tombe de la Sénégalaise assassinée lors de l'attentat. Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Je suis venu dire au président Ibrahim Boubacar Keïta que jamais le Mali ne sera seul. Nous avons vu combien la haine a pu marquer ces assaillants, ces criminels qui ont tué des innocents, qui avaient juste le tort d'être là au mauvais moment. Je pense que cela montre simplement que, encore une fois, plus que jamais, nul n'est à l'abri de telles agressions barbares et que le moment est venu qu'il y ait une prise de conscience globale, puisqu'il faut une action globale pour mettre fin à ce genre de carnage et d'action.
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Tout ce qui est étrange, moi qui l'a dit, tout ce qui vous semble suspect, vous avez le devoir de l'indiquer. Les forces sont là, elles ont montré leur compétence inouïe dans cette affaire-là, leur grand professionnalisme. Je tiens encore une fois à leur rendre hommage. Hommage vivant, et je suis fier de ce qu'elles ont fait. Je voudrais dire aussi que je suis très content, très fier de la société internationale qui s'est mise dès l'abord. Dès la survenue, je l'ai dit, le président Hollande m'a appelé. Et les forces spéciales françaises étaient là, en stand-by, attendant que nous nous donnions le feu vert pour qu'elles interviennent. Elles ne sont intervenues que quand nous avons estimé qu'elles devaient pouvoir venir pour que l'on conclue cette affaire-là.
Pendant son séjour, le président sénégalais a fait savoir que les pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal vont observer les deux de trois jours qui commencent aujourd'hui au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À noter que le président sénégalais Macky Sall a profité de cette visite à Bamako pour affirmer qu'il n'y avait pour l'instant aucune interdiction du voile intégral dans son pays, contrairement à ce qui a été rapporté récemment par plusieurs médias locaux et internationaux. Vous venez de l'entendre, le Sénégal est solidaire du Mali, même son de cloche en Guinée. Le président Alpha Condé, qui condamne fermement l'attentat de Bamako, appelle lui aussi à la solidarité. Il a demandé toutefois aux de rester vigilant face aux menaces terroristes. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Les trois jours de deuil national décrétés par les autorités maliennes seront aussi observés en Guinée en guise de solidarité, a annoncé samedi le président guinéen qui poursuit en s'attaquant au terrorisme. Il faut que tous les Guinéens prennent leurs responsabilités. Il faut que tout le monde fasse le policier, conseille-t-il. Dans cet atelier de soudure, Khalil Ibrahima accepte d'aborder le sujet sur les attentats au Mali.
Il y a un risque de généralisation du djihadisme en Afrique. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ni des Africains, ni des Européens. Ça ne fera que semer le trouble à travers le monde.
Nous, les Guinéens, quand même, nous aussi, on est peur, hein, parce que c'est un pays limitrophe de la Guinée.
C'est au siège de son parti à Conakry que le président Condé exprime le soutien de la Guinée au Mali. Il s'est même voulu menacer. Je fermerai toutes les écoles franco-arabes où les élèves portent le voile intégral, a-t-il dit. Mais les menaces ne sont pas partagées par tous.
Je ne suis pas partant à ça parce que c'est un pays musulman. Voilà, maintenant on doit contrôler. Il y a les lois aussi. L'Assemblée va voter. Si c'est le majoritaire dire que c'est non, c'est non.
Dans nos traditions, on ne se voile pas entièrement. Hein. Donc il ne faudrait pas qu'on importe des cultures qui ne sont pas les nôtres et qu'on fasse bien le discernement entre le voile musulman et le voile intégral qui n'est pas le voile de chez nous.
Le président guinéen n'est pas sa première sortie contre le port du voile intégral. Il y a quelques mois, Alpha Condé avait émis l'idée d'un débat national sur le sujet. Les autorités guinéennes suivent avec attention les événements de Bamako, Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Maintenant sur le Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein. Et pour la société civile, c'est l'occasion de sensibiliser les électeurs à la corruption liée aux élections. Zoumana Ouanogo, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
Pendant que les politiques battent la campagne pour avoir des électeurs à tout prix, à côté, il y a les organisations de la société civile qui font elles aussi la campagne, mais pas pour les mêmes raisons. Le RENLAC, Réseau National de Lutte Anticorruption, mène, elle, une campagne contre les pratiques irrégulières en matière d'élection. Dodé Yameogo, le président d'honneur du RENLAC, explique.
Aujourd'hui, que constatons-nous? C'est la publicité partout. Purement et simplement, la publicité politique. Or, la loi électorale interdit ça. Au niveau des affichage même. La loi électorale indique qu'il y a des lieux spécifiés par l'autorité communale où les partis doivent aller afficher là-bas. Bon. On se rend compte qu'aujourd'hui, les affichages se font n'importe comment. Sur le plan financier, nous menons une campagne de sensibilisation pour amener les gens à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas prendre 10 000 francs pour aller voter là qui est le problème. Le problème qu'on doit résoudre là, c'est savoir est-ce que la personne qu'on va élire là, est-ce que cette personne est à même de régler nos problèmes.
En parallèle, il y a cette autre campagne qui se base sur l'humour. Pour corriger les mœurs politiques. On écoute Abdoulaye Diallo du Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de Humour corruption électorale et élections apaisées.
On a décidé effectivement d'utiliser l'humour, la dérision, mais pour passer un message fort. Chaque humoriste va vendre son projet et le public est tenu de voter. Et à la fin, on va choisir le président qui sera élu. Et c'est pour ça qu'on a installé une commission humoristique électorale nationale indépendante, la CHENI. Le président élu va passer un message, cette fois-ci, pas un message d'humour, mais un vrai message au candidat qui va être élu après les élections du 29 novembre. C'est cette campagne d'éducation, de sensibilisation de la population, c'est cette campagne que nous menons. Nous ne menons pas la campagne pour être élu député ou être élu président, mais pour que quand les députés et le président qui vont être choisis soient vraiment le reflet de la volonté du peuple.
Après ta révolte, ton vote, tel est le mot d'ordre lancé par le ballet citoyen pour inciter les populations à aller voter. Suivons ce qu'en dit Seydou Zengue et Kevin Tiemtouré, deux jeunes étudiants.
C'est révolté contre le président Blaise Compaoré et deuxièmement contre un coup d'État qu'on a jugé stupide. Passons maintenant au vote. Votons celui que nous jugeons capable de nous diriger et ne pas chercher à modifier l'article 37 comme certains l'ont voulu faire.
C'est un slogan qui nous pousse à aller voter, à choisir un président qui va nous conduire à un développement, à un pays plus émergent.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Parlons maintenant d'insécurité routière au Cameroun. Malgré les efforts du gouvernement à empêcher les accidents, l'incivisme persiste sur les axes routiers, entraînant ainsi les accidents mortels. Le Cameroun enregistre environ 1500 décès chaque année à cause des accidents de la route, selon le ministère camerounais des Transports. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Nous sommes ici à Boumnebel, une localité située à environ 5 km sur l'axe Yaoundé-Douala au Cameroun. C'est sur cet axe que la plupart des accidents mortels sont enregistrés. C'est à cet effet que la gendarmerie nationale est depuis bientôt 5 ans aux côtés du ministère des Transports pour lutter contre l'insécurité routière. Colonel Soir Jules.
Vous savez, la route est un vecteur de développement, mais il est également un milieu où passent tous les malfaiteurs. Donc l'objectif était non seulement de réduire ce taux d'accident, de contrôler tous les usagers de la route.
Selon l'État camerounais, l'opération porte des fruits. On est passé de plus de 1700 morts enregistrés en 2011 à environ 1500. Mais l'usager Marc Evouna s'indigne de l'état de dégradation des routes qui peut être un facteur favorisant des accidents.
L'intensité de la circulation ne correspond pas aux infrastructures. Dans notre cas, il y a eu un panneau qui indiquait que nous devions être à 60 et nous sommes retrouvés à 70. On ne peut pas faire tout le trajet à 60. Vous pensez que c'est possible de faire Douala-Yaoundé à 60 à l'heure? Tout vous partez de Douala ou Yaoundé, on vous flash à l'aller parce que vous êtes allé à 65, là où vous étiez supposé rouler à 60, et qu'au retour, on vous frappe à 70, là où vous étiez supposé rouler à 60. C'est pas 100, on n'a même pas atteint 100, vous voyez, c'est pénible.
Un autre usager, Henriette Ngono, se plaint parce que son véhicule vient d'être interpellé pour faute de pièces de mise en circulation.
Je suis en panne. Ça fait depuis un an que ma voiture est garée à Douala. On a même foulé toutes les pièces. Regardez, il a même dépiécé toute la voiture là. Il a sa carte grise. Même l'assurance est finie là. À terre, ma voiture. Maintenant, quand j'étais pour rentrer avec ça, il y a Yaoundé. La gendarmerie m'interpelle. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas passé. Je n'ai pas payé que je suis là. Ouais. Il faut que je paye. La dame là me demande combien je dois payer. Oh, je n'ai pas d'argent pour payer.
La présentation du dossier est obligatoire pour traquer les usagers indisciplinés. Certains usagers de la route pensent néanmoins que c'est une opération qui est la bienvenue.
C'est pour la sécurité routière, pour la sécurité en général des citoyens. Donc à mon avis, c'est éducatif. Ça a l'air répressif, mais il n'y a pas de bonne manière sans contrôle. Je suis un responsable et je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais à réchigner contre les lois. Mon chauffeur, il me semble aller un peu plus loin. Il y a un dépassement, me semble-t-il, de 4 km par heure sur la tolérance, parce qu'en fait, le panneau indiquerait 60, la tolérance sera 69 et là nous sommes à 73.
Les gendarmes entendent y rester jusqu'à ce que les routes camerounaises deviennent moins dangereuses. mais plutôt qu'elle soit le lieu d'un voyage paisible pour tous. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Morgan Guiriec à la présentation, accompagnée de Anne Albertson à la mise en onde. Excellente journée à tous et retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.